Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hors Série pour une nouvelle émission d'En Avant Marx. Aujourd'hui, on poursuit notre lecture du Capital de Karl Marx et on va aborder ensemble le livre 2 après la dernière émission qui était centrée sur le livre 1. Le livre 1 du Capital, on l'a vu, était centré sur la notion de production et son corrélat dans le monde capitaliste, à savoir celle d'exploitation, puisque la question que posait Marx était celle de savoir comment est-ce que le capital réussissait à se valoriser, à produire de la survaleur. Et il introduisait, pour répondre à cette question, les concepts de surtravail, la manière dont les capitalistes exploitent les ouvriers, et le concept d'accumulation, comment est-ce que le capitaliste retransforme ce surtravail, cette survaleur, en nouveau capital pour poursuivre le cycle. Alors, dans ce livre 1 du Capital, on avait commencé par les notions de marchandises et d'argent, mais on les avait laissées assez vite de côté, et Marx raisonnait principalement en termes de valeurs abstraites, indépendamment des formes concrètes que prend cette valeur, marchandises, et argent au cours du processus. Le problème qui se pose à la sortie du livre 1 du Capital, c'est un problème de taille pour le capitaliste, puisqu'on a vu comment le capitaliste produisait de la survaleur sur la base du travail de ses salariés. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'il fait pour transformer cette survaleur en argent, comment il vend ses marchandises, et comment ensuite il rachète de nouvelles marchandises pour retourner à l'état de capital productif pour relancer le cycle capitaliste. Et c'est à cette question que prétend répondre le livre 2 en nous faisant sortir de la sphère de la production pour entrer dans la sphère de la circulation, c'est-à-dire ce monde des échanges, ce monde dans lequel le capitaliste vend ses marchandises et en achète d'autres. Et donc, en un certain sens, on retourne ici au tout début du livre 1 du Capital, la question des rapports entre marchandises et argent, mais cette fois-ci, on va les étudier sous l'angle de la logique du capitaliste lui-même, c'est-à-dire quelles opérations, en termes de circulation, le capitaliste doit faire pour pouvoir relancer son cycle, faire circuler ses marchandises de manière à produire toujours plus et de plus en plus vite. Donc on va aborder ce livre 2 du Capital d'un point de vue un peu synthétique avec Alexandre Ferron, ici présent, avec lequel nous avons traduit récemment à trois, en plus d'Alix Bouffard, qui n'est pas présente aujourd'hui, ce livre 2 du Capital. Donc bonjour, bonjour Alexandre. Et on va passer l'émission ensemble. La première question que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est la question finalement de la place de ce livre 2 dans l'unité du projet du Capital pour Marx. Parce qu'on peut avoir l'impression, et c'est logique spontanément, de se dire que voilà, Marx aurait écrit le livre 1 du Capital, il aurait ensuite fait le livre 2, ensuite le livre 3, voire même, on parle éventuellement d'un livre 4 qui serait les théories sur la plus-value ou sur la survaleur. Mais en réalité, ce à quoi on a affaire dans la tête de Marx, tout au long de sa vie, c'est une élaboration permanente d'un espèce de projet global. Et le livre 2 contient d'ailleurs, les derniers manuscrits sur lesquels Marx a travaillé. Et en réalité, ce projet global en cours d'élaboration, Marx ne l'a pas achevé, que ce soit sur le livre 1, sur le livre 2 ou sur le livre 3. On a toujours un peu de travail qui a été fait par Engels, mais c'est particulièrement le cas peut-être pour ce livre 2. Et donc, en préambule, est-ce que tu peux revenir sur finalement, qu'est-ce que c'est que ce livre 2 du point de vue éditorial et en quoi est-ce que c'est ou pas un livre de Marx ?
Alors, pour ce qui est du projet du livre 2, alors, du projet global du Capital, c'est évidemment un projet d'ensemble. Il s'agit de produire une compréhension et une analyse d'ensemble du système capitaliste, ou du capitalisme, ou du capital, et en l'abordant à partir de plusieurs, on peut dire, de fenêtres, de perspectives qui enrichissent progressivement et complexifient l'image qu'on peut avoir du capital. Le premier livre aborde les choses du point de vue de la production. Le deuxième livre, comme tu l'as dit, aborde les choses du point de vue de la sphère de circulation, disons, à travers la question de la circulation. Et le troisième, à partir d'une perspective d'ensemble. Et Marx a toujours eu ce projet global et il a toujours voulu produire cette œuvre dans son entièreté. Alors la difficulté auquel il a fait face, c'est que après c'est d'arriver au bout de ce travail, à la fois d'élaboration et d'écriture, les deux étant parfois liés. C'est-à-dire, au début, il voulait publier l'ensemble du Capital d'un seul coup, et ensuite, il a, pour des raisons aussi éditoriales, la pression d'Engels, la pression des éditeurs, il a décidé de publier le premier livre en 1867, alors qu'il avait déjà élaboré des brouillons du livre 2 et du livre 3. Et une fois qu'il a publié le livre 1, il a essayé de se remettre au livre 2, où on a une deuxième étape d'élaboration du livre 2 qui fait suite au livre 1 à la fin des années 60. Son travail est de nouveau interrompu par notamment un travail politique, à travers les événements politiques qui ont lieu au début des années 70,
la Commune de Paris,
la guerre franco-prussienne. Et ensuite, il est sollicité par toute une série d'autres questions théoriques, notamment la deuxième édition du livre 1 du Capital, ce qui l'amène à modifier de façon relativement substantielle le livre 1. Puis ensuite, il doit s'occuper de la traduction française du Capital, dont il s'occupe pendant plusieurs années. Il est pris dans des querelles avec Engels autour de la social-démocratie allemande. Et donc, ce n'est qu'ensuite qu'à la fin des années 70 qu'il peut s'y remettre. Et à un moment où il est encore déjà relativement malade, et il ne peut travailler que de façon intermittente sur le livre 2.
Puisqu'on rappelle que Marx meurt en 1883, donc la fin des années 70, il lui reste très peu d'années.
Voilà. Et donc, ce qu'il laisse à sa mort, c'est ce vaste ensemble de manuscrits qui, pour les plus tôt, datent du milieu des années 60 et qui vont jusqu'en 1881, donc quelques années avant sa mort. Et donc, sur près de 15 ans, avec une relative différence et une évolution dans la manière dont il conçoit ce livre 2. Ce qu'il faut dire, et tu l'as dit à l'instant, c'est que le livre 2, c'est le dernier état de son travail sur le Capital. Il n'a pas eu le temps de se remettre au livre 3, et ce qui nous reste du livre 3, c'est pour l'essentiel des brouillons datant des années 60. Donc on pourrait dire avec le livre 2, on a le dernier état de sa réflexion sur le phénomène du capitalisme avant sa mort.
Et c'est pour ça qu'on pourrait dire en un sens que le Capital, de ce point de vue-là, est une œuvre collective, puisque c'est l'œuvre également d'Engels qui va rassembler ses manuscrits et en tirer ce qu'il peut pour en faire des livres. Est-ce que tu peux juste dire deux mots sur le travail qu'a réalisé Engels sur la base de ses brouillons, de ses manuscrits, pour aboutir, en l'occurrence, au livre 2, mais on verra dans une prochaine émission que pour le livre 3, le processus est relativement similaire.
Oui, alors la difficulté d'Engels, c'est qu'à sa mort, au moment de mourir, Marx tenait beaucoup à ce qu'il y ait une publication du livre 2. Il a demandé expressément à Engels d'achever ce qu'il avait entrepris. Et Engels a hérité de cet énorme massif de textes, avec souvent plusieurs réécritures des mêmes passages, comme j'ai dit, des manuscrits datant d'époques relativement différentes, avec des conceptualités qui ne sont pas nécessairement homogènes, une écriture qui n'est pas entièrement aboutie sur certains passages où Marx savait ce qu'il voulait développer, il va parfois très très vite en sachant qu'il pourrait y revenir. Et donc ce que Engels a dû faire, c'était tenter de faire quelque chose qui ressemble à un livre cohérent et qui soit fidèle à ce qu'a proposé Marx. Donc c'est un travail éditorial important, il met près de 2 ans à le faire, il n'est pas tout seul, il est aidé par un jeune exilé allemand, un ouvrier typographe qui vient l'aider et qui est exilé à Londres. Et donc, il y a toute une série d'interventions éditoriales que fait Engels pour proposer un livre cohérent au lecteur. Alors, avec toujours ce qui peut y avoir d'ambivalent là-dedans, puisque d'une part, évidemment, il y a la volonté de montrer les grandes lignes de l'argumentation de Marx et les lignes de force de ce qu'a essayé de démontrer Marx. Lignes de force qui pourraient se perdre si on publiait juste tous les manuscrits, on peut dire, en l'état. Mais avec la difficulté, c'est que ça implique une sélection, ça implique d'homogénéiser certaines choses et donc de mettre de côté toute une série de choses qui ont été élaborées par Marx. Et donc il y a toujours, dès la publication, eu ce soupçon de dans quelle mesure est-ce que Engels a été fidèle ou pas à Marx, dans quelle mesure le livre 2, ça se pose aussi pour le livre 3, est fidèle ou pas à Marx. Donc on pourrait dire d'une certaine manière, c'est une œuvre de Marx, puisque c'est pour l'essentiel des manuscrits de Marx, le livre 2 comme le livre 3, mais édité. Donc il y a un travail éditorial qui est entrepris par Engels, et il est alors pas co-auteur, mais en tout cas éditeur en scientifique, si on veut. Et il faut souligner quand même que dans sa préface et dans les notes qu'il ajoute dans le texte, il essaye de mettre en lumière et d'expliciter un certain nombre de ses interventions éditoriales. Il explique. Il justifie son choix des manuscrits, le moment où il passe d'un manuscrit à l'autre. Il précise un certain nombre de fois quand il réécrit telle ou telle phrase ou modifie tel ou tel passage. Donc il y a une volonté de montrer aussi qu'il est intervenu à différents points du manuscrit.
Alors après cet aperçu philologique, on va rentrer un petit peu dans le contenu du texte. Première question, puisqu'on va suivre le développement de Marx, est-ce que tu peux donner une idée très rapide du plan de ce livre 2 du Capital et peut-être de la manière dont ça s'inscrit donc après le livre 1 et avant le livre 3 dans l'architecture globale du projet de Marx?
Oui. Alors, donc, le livre 2 s'intitule « Le processus de circulation du capital » et il fait suite au livre 1 qui s'intéresse au processus de production du capital. La question étant, du livre 1, comment est-ce que le capital, en fait, se produit en tant que capital, se réalise en tant que capital. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le capital? Et on peut dire, à un premier niveau, ce que Marx entend par capital, c'est de la valeur en mouvement et de la valeur animée par un mouvement tel que cette valeur ne cesse de s'augmenter. Pour le dire un peu empiriquement, ça veut dire que c'est le phénomène de la croissance. Le capital doit sans cesse croître, s'augmenter et doit sans cesse produire plus de valeur. Et la question du livre 1, c'est d'où vient ce surcroît de valeur? Qu'est-ce qui fait que le capital est capable de produire, de s'engendrer lui-même en augmentant en perpétuellement sa valeur? Et l'analyse de Marx, celle qui produit, on peut dire, au début du Capital, c'est de dire on ne peut pas comprendre ce phénomène d'augmentation, de croissance, d'augmentation du capital, à partir de la seule perspective de la circulation, c'est-à-dire, on peut dire, de la sphère du marché, c'est-à-dire le lieu où s'échangent des marchandises et où on a affaire à soit de l'argent, soit des marchandises. Et si on prend la perspective du marché, de la perspective de la sphère de circulation, ce phénomène d'augmentation de la valeur est absolument incompréhensible. Pour comprendre cette augmentation de la valeur, il faut rentrer dans la sphère de la production, c'est-à-dire, et c'est dans ce lieu-là, c'est-à-dire ce lieu où on retire un certain nombre des éléments de la circulation, des travailleurs et des machines, de la matière première, on transforme ces éléments, on les fait s'activer et on réintroduit une nouvelle marchandise qui a plus de valeur. Donc c'est là que se réalise, selon Marx, l'augmentation de la valeur. Et donc il n'y a pas d'augmentation de la valeur qui a lieu sur la sphère de la circulation. Le livre 2 revient sur cette question de la sphère de la circulation qui avait été mise de côté dans le livre 1 pour montrer que si c'est bien dans la sphère de la production que s'engendre cette valeur en plus qui est l'essence du capital, la sphère de la circulation est cependant un moment nécessaire et indispensable du phénomène capitaliste dans son ensemble. On pourrait dire une double raison, doublement nécessaire, je dirais en amont et en aval. Puisque en amont, on pourrait dire, la sphère de la circulation est nécessaire, puisque pour produire, il est nécessaire qu'un capitaliste trouve sur le marché un certain nombre de choses qui doivent être déjà là pour pouvoir les acheter et les intégrer dans sa production. Un certain nombre de machines, un certain nombre
de matières premières, etc., qui doivent déjà être là sur le marché. Et donc la sphère de la circulation est nécessaire comme présupposition de la production. Mais à l'inverse, une fois que, si on va en aval, une fois qu'il a produit cette marchandise pourrait tout aussi bien ne pas être vendue. Et si elle n'est pas vendue, on peut dire que tout ce qui a été fait au niveau de la production est perdu. Donc la sphère de la circulation est nécessaire ensuite pour écouler les marchandises ou encore ce que Marx appelle réaliser la valeur qui a été produite. Et donc des deux côtés, cette sphère de la circulation est indispensable pour comprendre de façon globale la circulation, le phénomène capitalistique, puisque le capital, c'est cette valeur en mouvement qui va certes passer par ce moment indispensable de la production, mais qui ensuite circule nécessairement dans cette sphère de la circulation. Et donc le deuxième moment du capital, c'est le moment où on réinscrit ce qui a été dit pour la production dans la circulation globale du capital, c'est-à-dire ce mouvement où le capital ne cesse de passer, la valeur ne cesse de passer de la sphère de la circulation à la sphère de la production.
On va du coup commencer à rentrer dans le détail de cette circulation. Tu l'as dit, le capital, ça consiste à élargir petit à petit le point de vue. Donc on avait un point de vue qui était centré sur la production dans le livre 1. On élargit un petit peu pour ne faire de la production qu'un moment dans la vie du capital, finalement. Et du coup, Marx ouvre le livre 2 avec une espèce de résumé de la vie de n'importe quel capital, et notamment un résumé du point de vue formel, puisque Marx nous dit que le capital passe nécessairement sous trois formes différentes, et pour ce faire, il doit opérer des métamorphoses. Est-ce que tu peux revenir sur ces trois formes, sur ces métamorphoses, et sur ce que ça suppose de la part du capital? En quoi est-ce que c'est potentiellement une source de difficulté pour le capital et pour le capitaliste?
Oui. Marx revient en fait sur des choses qu'il avait déjà commencé à évoquer, par exemple dans le chapitre 3 du livre 1, lorsqu'il parlait de la monnaie ou de l'argent, c'est-à-dire le fait que le capital, donc c'est de la valeur en mouvement, mais cette valeur en mouvement, qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement dont est animée cette valeur? Ce mouvement, c'est un passage perpétuel d'une forme dans une autre. C'est ça qu'il appelle une métamorphose, c'est que le capital ne cesse de passer, n'existe pas de façon autonome, on pourrait dire, et n'existe qu'en tant qu'il prend des formes différentes et successives. Par exemple, il existe sous forme d'argent ou de monnaie, il peut exister sous forme de marchandises, tel ensemble des quintaux de blé, etc. Mais il peut aussi exister sous forme de bâtiments, des bâtiments industriels, etc. Donc le capital n'existe qu'en tant qu'il prend des formes différentes, et c'est ce qui va faire de toutes ces formes ou de toutes ces entités du capital, c'est que cette valeur va circuler d'une forme à l'autre et va revenir à son point de départ, avec une valeur augmentée. Et ces différentes formes, en fait, ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire, pour Marx, ces formes sont prédéterminées et il faut nécessairement, pour que le capital se reproduise, qu'il passe par des formes successives. Et à partir du livre 1, mais il reprend les choses au début du livre 2, il essaye de dessiner ces formes successives que prennent le capital, de telle sorte que le capital forme un cercle, c'est-à-dire revient à sa première forme. Alors, pour le dire rapidement, il y a trois grandes formes qui vont être prises. Tout d'abord, il y a la forme argent, c'est-à-dire le capital existant sous une forme monétaire.
Ce qui correspond spontanément à l'idée empirique de qu'est-ce que c'est que d'avoir du capital, voilà. C'est d'avoir une certaine somme d'argent.
Mais en fait, tout argent n'est pas nécessairement du capital. Cet argent n'existe, né du capital. De l'argent n'existe comme capital que dans la mesure où il est utilisé d'une certaine manière pour Marx. Il est utilisé en tant qu'il circule qu'il est investi, on pourrait dire, dans un cycle productif.
Donc première forme, l'argent.
Première forme, l'argent. Deuxième forme, ce qui est la forme disons productive du capital, c'est-à-dire un certain nombre de marchandises qui ont été achetées sur le marché mais qui sont ensuite utilisées dans la sphère de la production pour produire de nouvelles marchandises ayant plus de valeur que les marchandises qui ont été achetées au départ. Donc c'est la forme productive du capital. Alors c'est autant des bâtiments, les bâtiments industriels, les machines, la matière première, mais tous les éléments qui sont nécessaires à
et
la
le
production.
Travail, en tant
et
qu'il
le
est
travail
dépensé.
En tant qu'il est lui-même devenu une marchandise et qu'il y a un marché du travail. Ensuite, et la troisième forme, qui est cette forme marchandise, c'est-à-dire ce capital, en tant qu'il est passé à travers le cycle de productif, il aboutit à une marchandise nouvelle, marchandise nouvelle qui a plus de valeur que ce qui est, que les éléments de départ, et qui est donc le produit qui doit être ensuite vendu sur le marché. Donc,
pour retourner.
Et ensuite, cette marchandise est ensuite vendue pour une certaine et donc échangée pour de l'argent. Et à ce moment-là, le capital retrouve sa forme d'argent de départ, mais avec une valeur en plus. Donc ça, c'est les différentes formes qui sont nécessaires que doivent emprunter le capital de façon dans cet ordre-là et successivement. Et le grand risque, c'est que tout le capital risque toujours de ne plus fonctionner, d'entrer en crise, si cette valeur se trouve coincée dans l'une de ces formes et n'arrive pas à passer à la forme suivante.
Alors concrètement, ça veut dire que par exemple, en amont, comme tu disais, j'ai de l'argent, je ne parviens pas à trouver les marchandises dont j'ai besoin pour faire fonctionner cet argent comme capital. Ça peut être parce que je ne trouve pas de travailleurs sur le marché, je manque de stock, etc. Et en aval, je me retrouve avec un stock de marchandises invendables qui ne permettent pas non plus de relancer le cycle, puisque eh bien, je ne peux pas opérer le repassage par la forme argent qui me permettrait de faire retourner la machine capitaliste.
Ou bien coincé dans le cycle de la production, c'est-à-dire si à un moment les machines ne fonctionnent plus, il y a un dérèglement, les travailleurs se mettent en grève, c'est-à-dire au niveau de la production, il y a plein de choses qui peuvent se passer, une catastrophe climatique, etc., des destructions qui empêchent le passage de cette valeur à la forme suivante. Et donc, à chaque fois, ce que Marx identifie, c'est des potentiels lieux de où ça pourrait coincer dans ce cycle du capital, ce qui pourrait amener soit à des pertes de valeur, soit à des crises, selon l'ampleur.
L'argent qui reste improductif se déprécie, les stocks de marchandises invendables se déprécient également. Et là, on retrouve peut-être quelque chose qui court sur la première section de ce livre 2, c'est l'exigence de fluidité. Le capital, tu l'as dit, c'est un mouvement de valorisation, et par conséquent, il y a une exigence de fluidité permanente. Il faut que les marchandises, le capital productif et l'argent passent sans cesse d'une forme dans une autre. Et c'est peut-être ça, finalement, que Marx permet de voir, c'est le nécessaire mouvement permanent du capital. Et on verra, en abordant la section 2, que non seulement ce mouvement doit être fluide, mais qu'en plus, il doit être sans cesse accéléré. Mmh. Est-ce que tu peux, donc en deux mots, reparler de ces possibilités de crise, finalement, que Marx ouvre en décrivant les choses de cette manière-là, puisque avec ce schéma des formes et des métamorphoses, finalement, ce qu'on retrouve, c'est tout simplement une théorie générale, alors exclusivement descriptive pour l'instant, mais une théorie très générale des crises possibles du mouvement du capital, qui se retrouve bloqué, comme tu l'as dit, à des stades.
Alors peut-être, avant de répondre à ta question, je vais peut-être revenir sur cette idée de la succession des stades, puisqu'on a décrit un cycle où on passe d'une forme à l'autre pour revenir à la forme de départ. Et donc c'est un mouvement, quelque chose qui est un cercle, et on pourrait dire un cercle n'a évidemment ni début ni fin. Alors l'une des difficultés qui se pose quand on essaye de se représenter ce qu'est le capital et se représenter le processus, c'est qu'on est amené à présenter quelque chose qui est cyclique de façon, on pourrait dire, linéaire. C'est-à-dire il faut bien commencer sa description, son analyse quelque part. Et je pense que l'un des intérêts de cette première section du livre 2, c'est de dire que ce mouvement circulaire, on doit décidément commencer quelque part. C'est soit on dit que le capital commence avec de l'argent. la forme argent, et puis se déploie dans une forme productive, puis ensuite dans une forme marchandise, et revient à son point de départ. Mais, dit Marx, on pourrait tout aussi bien prendre comme point de départ le point de départ du capital, de la production, de la forme productive, ou le point de vue de la marchandise. Et on aurait de nouveau à faire un cycle. Et ce qu'il dit, c'est que selon le point de départ que l'on choisit, c'est-à-dire la manière de modéliser en fait, le développement du capital, en fait, on a une vue très différente de ce qu'est le cycle. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le point de départ de l'argent, et que vous dites que l'argent est le point de départ et le point d'arrivée, il dit que ça met en lumière un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le capital, en fait, ne s'intéresse pas du tout au contenu de ce qui est produit. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il produit, comment il produit, les effets de ce qu'il produit, la seule chose qui l'intéresse, c'est cette augmentation de la valeur. Donc ça a une dimension très importante et ça met en lumière beaucoup de choses sur le capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas d'abord produire pour produire ou une fascination pour les marchandises, etc. Mais cette perspective conduit aussi à une perspective qui est biaisée, parce que ça donne, dit Marx, l'impression que le point de départ du capital, c'est de l'argent qui existerait là au départ, alors que cet argent du départ, en fait, est lui-même, en fait, le produit à la fois de cycles antérieurs, mais il faut bien qu'il vienne de quelque part. Est-ce que ça masque cette idée de construire le cycle en disant que le capital, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'argent, qui l'investit pour produire et qui a un retour sur un investissement? C'est l'origine, on pourrait dire, de ce point de départ. Alors que les autres cycles, par exemple, le cycle du capital productif, permettent de mettre en lumière que le point de départ, c'est la production et la production auquel participent aussi des travailleurs, etc. Et donc, selon la perspective et la manière de modéliser, on aura une conception relativement différente. Et c'est pour ça que Marx va proposer trois perspectives différentes sur le cycle, à partir de ces trois grands forme, et dire que ce qu'il faut pour avoir une vue globale sur ce qu'est le cycle du capital, c'est articuler les trois formes. C'est qu'on a affaire aux trois en même temps, et chacune de ces perspectives met en lumière certaines choses tout en masquant d'autres choses, et il faut être en mesure d'articuler ces différentes perspectives pour avoir vraiment une saisie globale de ce qu'est le phénomène du capitalisme.
Donc effectivement, on revient à la difficulté toujours la même de savoir par quoi commencer avec cette question du capital qu'on définit comme une valeur s'auto-valorisant, donc radicalement comme un processus cyclique, comme tu l'as dit, qui n'a pas de point de départ, n'a pas de fin et ne cesse de se poursuivre. Est-ce que tu peux du coup, une fois précisé ça, revenir très rapidement sur cette question des crises? Puisque, encore une fois, le fait, je trouve que c'est une des forces de ce livre 2 du Capital et du Capital en général, c'est de donner finalement un sens très général à des intuitions un peu dispersées qu'on peut tous avoir. Bah oui, quand le capitaliste n'arrive pas à vendre ses marchandises, évidemment, ça l'embête. Ça, tout le monde le sait très bien. De même qu'il suffit d'ouvrir un journal ou de regarder un journal télé pour savoir que les employeurs se plaignent de ne pas pouvoir trouver de salariés, etc. Et du coup, oui, il y a des points de blocage de ci, de là. L'intérêt, me semble-t-il, avec Marx, c'est de montrer finalement, de localiser ces points de blocage dans le schéma général du capital.
Alors, pour ce qui est des différents... Alors, le livre 2 n'est pas un livre sur les crises. Alors, c'est pas d'abord un livre qui... Et finalement, la question des crises est à la fois partout, en latente. Donc, c'est un livre qui permet de comprendre la compréhension que Marx pouvait se faire de certaines des grandes crises auxquelles pouvait être confronté le capital. Mais ce n'est pas toujours explicité, ou c'est seulement en passant qu'il signale. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est ce mouvement en tant qu'il réussit, je dirais, en identifiant à chaque fois les points qui peuvent ne pas réussir, ne pas les points de blocage, c'est-à-dire quand cette valeur est arrêtée, séjournée, fixée à certains points. C'est ça, c'est que c'est un mouvement, c'est-à-dire ça doit être en flux, et dès que ça se cristallise, dès que ça se solidifie, ça s'ossifie, donc ces différentes métaphores qui prend de cette solidification dans un lieu, on a un capital qui ne cesse de fonctionner ou qui fonctionne, qui fonctionne mal et qui essaye au contraire en permanence d'essayer de fluidifier ses relations. Donc je dirais c'est un peu en creux qu'on voit une théorie des crises et différents types, c'est-à-dire à chaque point du capital, du circuit du capital, à chaque point du cycle du capital, il y a toujours des possibilités de blocage, de ratage et potentiellement des possibilités de crise.
Et alors, deuxième chose en creux qu'on peut essayer de voir avec cette analyse de la fluidité du cycle du capital, c'est la manière dont le capital produit des institutions, produit un espace, produit tout un tas de choses qui sont mises au service de cette fluidité. Et je pense que c'est là encore la force des analyses de Marx, c'est non seulement de montrer, disons, d'un point de vue purement formel, la manière dont ça se passe, mais de permettre, grâce à ce point de vue formel, d'identifier des phénomènes du monde contemporain, comme la manière dont, par exemple, cette fluidité doit passer par des transports corrects, des institutions ferroviaires, routières, etc. Et comment, finalement, cette logique du capital que Marx nous montre à l'œuvre façonne l'environnement dans lequel, en tant qu'être humain, nous sommes pris. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sur cette fluidité? On passera ensuite à la section 2, à l'action de la rapidité, parce que non seulement il faut que ce soit fluide, mais il faut que ce soit de plus en plus rapide pour des raisons sur lesquelles on reviendra ensuite.
Donc il y a la nécessité de passer d'une forme à l'autre, et c'est pour ça que, par exemple, le moment où la marchandise sort de la production, le moment où elle entre dans la marchandise rentre dans la sphère de la circulation, doit se passer le plus rapidement possible. Là, j'anticipe peut-être sur cette question de la rapidité. Mais ce qu'il faut, ce que Marx montre, c'est comment le capital, je répète un peu ce que tu proposais, essaye d'organiser toute une série d'éléments, organiser l'espace, organiser les institutions et les relations sociales, de telle sorte que il n'y ait aucun blocage à aucun moment du processus.
Et on peut prendre des exemples concrets avec le Covid, par exemple, les points de blocage se sont multipliés, ce qui a conduit à une fragilité en chaîne de l'édifice capitaliste. Il y a cet exemple du Covid, il y a un autre exemple qui avait défrayé la chronique, c'était le bateau bloqué dans le canal du Panama, où pour le coup, d'un coup, le flux permanent qui est censé garantir, disons, la stabilité de l'édifice capitaliste, s'était arrêté, même de manière très ponctuelle, et tout de suite commençait ponctuellement à menacer tout ça. Et inversement, on pourrait dire qu'une des spécificités, disons, du capitalisme, c'est de veiller à organiser le territoire de manière à permettre cette fluidité. Un exemple qu'on prend habituellement, c'est celui des colonies, par exemple, des colonies dans un monde qui était déjà un monde capitaliste, où lorsqu'on étudie un petit peu la géographie de la plupart des colonies, on voit qu'effectivement, il y a des infrastructures qui ont été faites par la puissance coloniale, et notamment des infrastructures routières, mais qui étaient exclusivement centré sur une logique qui était celle du capital, pas du tout celle des populations, pas du tout celle des convenances de la vie quotidienne. Il fallait en gros que la route aille du lieu de production au lieu de circulation, des plantations au port, etc., de manière à permettre cette fluidité-là. Donc il me semble que c'est là encore la force de ce livre 2, c'est que c'est des analyses qui permettent de donner de la cohérence à des intuitions qu'on peut avoir et qui, finalement, et c'est la grande force de Marx, de porter un regard sur le monde empirique, c'est-à-dire en quoi est-ce que le monde dans lequel je vis est marqué par la logique du capital, et comment est-ce que je peux expliquer tel ou tel phénomène par la logique capitaliste qu'il y a derrière.
Oui, tout à fait, je souscris tout à fait évidemment à ce que tu proposes. Alors, dans cette section 1, il y a un chapitre qui est consacré aux coûts de circulation, notamment. Alors, il y a temps de circulation et coûts de circulation, où Marx aborde plus précisément ce que tu évoques, différents éléments de ce que tu évoques. À la fois cette idée que le temps de circulation implique et a des effets immédiats sur le coût de circulation de différentes manières. Et notamment dans l'analyse des coûts de circulation, c'est des coûts de transport. Donc l'un des enjeux, c'est de réduire au maximum le coût des transports, mais réduire le coût des transports, c'est réduire le temps de transport, donc réaménager l'espace pour que la circulation des marchandises se fasse de la plus fluide et de la plus efficace possible. Mais aussi, l'autre élément, c'est ce qu'il appelle des coûts d'entreposage ou des coûts de stockage, c'est-à-dire pour assurer la fluidité, il faut parfois stocker un certain nombre d'éléments pour que, par exemple, la matière, une certaine quantité de matière première soit toujours disponible pour une usine. Donc il y a des nécessaires qui est des entrepôts. Et on pourrait dire, mais dans la logique de fluidification, on pourrait dire, d'autre part, le capital aurait besoin d'abolir au maximum ces entrepôts, puisque ces marchandises entreposées sont des marchandises qui ne circulent pas.
Ils sont immobilisés, ah. Ouais.
Donc il y a d'une part la nécessité pour rendre plus fluide la production, pour dire qu'il y ait toujours de l'entreposage d'une certaine manière, mais cet entreposage doit être réduit au minimum d'un point de vue global pour que toutes les marchandises circulent. Alors on pourrait dire dans la tendance, il y a eu toute une tendance d'élimination, on pourrait dire, de tout l'entreposage pour que tout se fasse en flux presque direct d'une certaine manière. Et c'est évidemment cette tendance de la fluidification maximale et de la réduction maximum des éléments d'entreposage a pour effet inverse de rendre plus fragile aussi le circuit, puisque si tout doit arriver au bon moment, dès qu'il y a un déréglage, on pourrait dire, de la circulation, dès qu'il y a un bateau qui bloque le port du Panama ou autre chose, ou évidemment, les marchands, vu qu'il n'y a plus de stock, c'est l'ensemble de la production qui est déréglé. Pendant le Covid, on a vu un certain nombre de phénomènes où il n'y avait plus de matières premières pour produire en raison de l'interruption de certains flux.
Et juste pour terminer sur ces questions empiriques, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce dont tu as parlé sur la fluidification, en réalité, l'histoire très récente peut nous montrer que c'est une forme de fantasme, puisque ce qu'on voit fleurir en réalité dans la périphérie des villes actuellement, ce n'est pas du tout des lieux où on produirait juste ce qu'il faut pour le consommateur en temps réel, c'est des immenses entrepôts remplis de marchandises et qui servent de stock, qui immobilisent des marchandises de manière à... qui sont des garanties de cette fluidité, mais qui, encore une fois, passent nécessairement par du stockage, de l'immobilisation, des gens qui travaillent dedans et une emprise au sol qui est de plus en plus délirante dans le capitalisme contemporain, avec encore une fois tout simplement les entrepôts Amazon ou tout ce qui fleurit en bordure d'autoroute.
Et c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que tu as dit, un des grands géographes marxistes contemporains, à savoir David Harvey, construit une grande partie de son analyse du capital contemporain, des phénomènes d'urbanisation et du développement, la manière dont le capital organise la géographie, en s'appuyant sur le livre 2, en estimant qu'il y a dans le livre 2 des intuitions très importantes pour construire ce qu'il appelle une géographie marxiste, pour comprendre comment, pour dire comme le dit Marx dans le manifeste, que le capital fait un monde à son image et construit un monde à son image, et que la géographie est le reflet, pour dire, de ces flux et de ces exigences de fluidification du capital.
Alors, on a commencé à parler un peu d'espace, là. Je voudrais qu'on passe à la section 2 et qu'on parle un peu plus de temps. Puisque là, on a parlé des métamorphoses du capital, mais on était dans un temps relativement abstrait. On ne prenait pas en compte la durée. Il fallait que ce soit fluide, mais la durée, à la limite, importait peu. Alors évidemment, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne précisément là-dessus avec la notion de rotation, puisque Marx nous dit en gros que ces métamorphoses s'inscrivent dans un temps qui est un temps réel, et que le capitaliste, non seulement doit, s'il veut gagner beaucoup, doit produire beaucoup avec beaucoup de survaleur, mais une des autres modalités qui permet de gagner plus, c'est de produire de plus en plus vite, de raccourcir le cycle du capital, puisque à chaque cycle du capital, il y a un peu plus pour le capitaliste. Bah, si on fait plus de cycles de capital dans une même durée, on augmente la survaleur. Et là encore, on va voir que ça permet de donner du sens à des phénomènes très concrets, très empiriques du monde contemporain. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cette notion de rotation, qui est celle par laquelle Marx inscrit cette notion de cycle dans une durée qui est une durée réelle et non plus juste la durée abstraite de la série des métamorphoses?
Oui, donc la section 2 du livre 2 ça s'intitule « La rotation du capital » et donc fait suite à cette première section centré sur la notion de cycle et donc cette succession des métamorphoses. Alors ce qui l'intéresse dans ce deuxième temps, c'est de dire que ce cercle ou ce cycle qu'on avait vu dans le premier temps, évidemment ne s'arrête pas une fois qu'il est revenu à son point de départ, ne cesse de se reproduire. Et le capital cherche à en fait accélérer en permanence la vitesse
de
cette rotation. Alors, ce qui se joue dans le livre, dans la section 2, c'est un autre élément, c'est de se dire, en fait, la première perspective a considéré qu'il y avait tous les éléments circulés de façon relativement homogène, avec une même temporalité. Et la deuxième section va introduire l'idée que les différents éléments du capital, c'est-à-dire dans un même investissement, des achats de marchandises vont produire des marchandises, aller acheter des marchandises différentes sur le marché, mais ces marchandises vont avoir des rythmes de circulation différents. Les choses ne circulent pas à la même vitesse. C'est-à-dire, c'est très empirique. C'est-à-dire, si vous achetez de la matière première et que vous êtes un capitaliste, cette matière première va être entièrement consommée, produite dans le produit fini et va circuler. La valeur va entièrement de la matière première qui rentre dans la production du produit va entièrement se retrouver dans le produit. Donc, cette valeur circule à chaque cycle, l'ensemble de la valeur passe d'une forme à une autre. Mais il y a d'autres types d'éléments de cette valeur, d'éléments du capital, qui n'arrivent pas à passer entièrement d'une forme à une autre à chaque cycle productif. L'exemple, c'est par exemple celui des machines. C'est-à-dire, évidemment, quand vous achetez une machine, vous ne devez pas racheter la machine chaque fois que vous produisez quelque chose, elle reste. Et donc, pour amortir une machine, vous devez une machine est amortie seulement au bout d'un certain nombre d'années, une certaine quantité de cycles.
Et le capitaliste facture cet amortissement au prorata de la valeur de la machine en disant par exemple que dans tel cycle de production, 10% de la machine a été usée.
Voilà.
Pouvoir ajouter.
Voilà. Et donc, vous voyez, cette valeur qui est investie dans les machines ne circule pas à la même vitesse que la valeur qui est investie dans les éléments les matières premières qui sont consommées immédiatement. Et donc, ça ne revient pas à la même vitesse au producteur. C'est-à-dire, ce qui est investi dans la machine ne revient qu'au bout, disons, peut-être de 10 ans, ou ça peut être plus, ou ça peut être moins, alors que ce qui est investi dans la matière première revient au bout de quelques semaines, une fois que la chose est produite et est vendue. Et c'est cette distinction-là qu'il travaille dans cette deuxième partie, en distinguant ces deux formes de circulation du capital. D'une part, ce qu'il va appeler le capital circulant. Et le capital circulant, c'est ce capital qui passe entièrement à chaque cycle d'une forme à une autre, qui ne reste jamais dans la forme productive, alors que le capital fixe, c'est un capital productif qui ne passe pas entièrement dans la marchandise qui a été produite, et donc qui reste pendant un certain nombre d'années. Et donc, cette circulation différenciée a des effets importants sur la manière dont les capitalistes se comportent, essayent de rentabiliser leur investissement, organisent l'espace et essayent également de rentabiliser au plus vite, amortir au plus vite les investissements, par exemple, en capital fixe.
Et sans anticiper sur des choses qui viendront un peu plus tard, surtout dans le livre 3, ce qu'on voit aussi derrière en creux, toujours pareil, c'est la possibilité d'une explication de ce qu'on appelle les cycles industriels, c'est-à-dire la temporalité avec laquelle le capitalisme passe par des booms et des chutes de la production, puisque quand les capitalistes doivent renouveler leur stock de machines, évidemment, selon s'ils les ont tous achetés en même temps ou pas, ça a des effets très réels sur le marché et sur l'économie. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Et donc, ce qui l'intéresse, c'est comment aussi ces phénomènes de rythme, ces rythmes différenciés de circulation du capital ont des effets importants à la fois sur la valorisation globale du capital, sur l'organisation de l'espace, sur l'organisation temporelle du capital et sur le comportement des capitalistes et les potentialités de crise.
Alors effectivement, et juste donc pour poursuivre avec cette notion de rotation, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de cette notion de rapidité et de temporalité réelle, puisque c'est aussi cette section 2, la section dans laquelle, me semble-t-il, Marx aborde la notion de cycle du capital du point de vue de sa rapidité, ou plutôt de la nécessité de l'accroissement de sa rapidité, et où Marx va théoriser, même si c'est de manière assez fugace, mais ça prend toute son importance aujourd'hui, l'idée d'une possible contradiction entre cette rotation capitaliste et son exigence de rapidité et d'autres formes de cycles, et notamment les cycles naturels, puisqu'on trouve encore une fois, à l'état d'ébauche, mais de manière extrêmement logique, extrêmement structurée, extrêmement cohérente, cette idée qu'il y aurait peut-être une contradiction entre l'exigence capitaliste de produire de plus en plus vite et la temporalité naturelle dans laquelle s'inscrit, qu'il le veuille ou non, le capital, qui suppose des temps de maturation, des temps de croissance, des temps de reproduction lents, ou en tout cas plus lents que ceux que ne souhaiterait le capitaliste.
Oui, alors l'un des points qu'il aborde, notamment quand il parle du temps de production dans cette deuxième section, c'est le fait que dans la production, il y a un certain nombre de phénomènes qui prennent du temps, que ce soit des phénomènes chimiques, physiques, ou bien des phénomènes organiques naturels. Alors ça peut être des processus chimiques comme production d'alcool ou des choses comme ça qui doivent prendre la fermentation, qui doivent prendre un certain temps. Il y a des phénomènes naturels, c'est-à-dire si vous produisez du bois, il faut bien que des arbres poussent et ça a une durée de vie relativement importante des bois, donc pour arriver à ce que les arbres prennent la taille suffisante, ça, c'est un certain nombre d'années. Ça se pose pour la question de la production alimentaire, c'est-à-dire les moutons ou les vaches ont certaines capacités d'engendrer des petits seulement un certain nombre de fois par an, etc. Et il y a une maturation évidemment des petits pour qu'ils arrivent sous la forme où qu'elle est consommable et abattable. Donc, il y a des processus qui ont l'air difficilement compressibles. Et ce qu'essaie de montrer Marx, c'est comment le capital va essayer à la fois rencontrer un certain nombre de limites, c'est-à-dire il ne va pas pouvoir tout contourner, mais va essayer d'intervenir pour réduire au maximum. Alors, pour les processus chimiques, il s'agit de trouver des processus qui permettent d'accélérer ces différents phénomènes chimiques physiques qui ont l'air incompressibles. Donc c'est des innovations de ce point de vue-là pour raccourcir toujours les temps des processus. Mais aussi du haut niveau organique, c'est essayer de trouver des manières de contourner, en fait, pour abattre des arbres de plus en plus jeunes, ou bien d'essayer d'intervenir avec des croisements d'animaux. Et ça, là, notamment, il s'intéresse au développement de nouvelles races de moutons en Angleterre à la fin du 18e, une espèce d'ingénierie, je ne sais pas comment on appellerait ça,
biologique,
où il s'agit de produire des moutons qui sont plus adaptés au cycle de la circulation, qui ont des vaches qui mettent moins de temps à devenir adulte, etc. Donc c'est des moutons aussi qui ont plus de portée par an, etc. Donc c'est intervenir sur le biologique pour permettre de contourner ces limites. Et bon, on peut trouver d'autres exemples dans l'agriculture où évidemment il s'agit aussi d'intervenir pour permettre au processus naturel de se dérouler le plus rapidement possible et permettre à ces processus naturels de se régler sur les exigences de ce processus fluide, rapide et de plus en plus accéléré qui est exigé par le capital. Donc ce qu'on voit, c'est cette intervention de cette temporalité, cette exigence du capital dans toutes les sphères un peu de l'existence et toutes les sphères de la réalité.
Et donc on a, de ce point de vue-là, là encore, des choses qui sont relativement abstraites, relativement formelles, contiennent en creux, par exemple, une théorie de ce qu'est la science et la technique en monde capitaliste. Un des buts, une des tâches de la science et de la technique dans le monde capitaliste, c'est cette accélération. Et inversement, ça permet aussi de comprendre que certains des biens considérés comme les biens les plus luxueux aujourd'hui sont des biens pour lesquels ce temps de production est incompressible. C'est l'exemple typique des grands vins. En réalité, la production en série de grands vins n'est pas possible, parce que là, il y a quelque chose dont le cycle, entre guillemets, naturel, échappe intrinsèquement, peut-être, à la valorisation, au raccourcissement des cycles capitalistes. Et je dis ça simplement pour garder en tête vraiment cette idée que le livre du Capital peut sembler très abstrait à la lecture, mais qu'en réalité, ce qu'il permet de faire, c'est toujours d'avoir ce point de vue sur le monde qui consiste à se poser la question, quelles conséquences concrètes est-ce que ce que décrit Marx a dans notre environnement. Deuxième point sur cette rapidité, peut-être, quelque chose de très concret pour donner un peu corps aux idées de Marx, c'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est celui de l'obsolescence programmée. peut-être. Puisque là encore, l'idée de Marx, c'est tout simplement, il faut que le cycle se répète, qu'il se répète vite et qu'il se répète le plus souvent possible. Mais là, il y a une exigence, c'est que pour que le cycle se répète, bah, il faut bien vendre les marchandises en question. Et par conséquent, on peut aussi peut-être lire, je ne sais pas ce que tu en penserais, ces analyses très abstraites, en les confrontant à des choses qui sont aujourd'hui, qui ont cours dans le langage assez courant, cette dénonciation de l'obsolescence programmée ou du marketing capitaliste qui nous pousse à vouloir toujours des nouvelles choses. Bah, Marx dit, bah oui, en fait, c'est logique, il y a cette nécessité de reproduire le cycle. Et si on n'achète plus de marchandises, bah, ça fait un point de blocage parmi d'autres.
Oui, puisque au moment, du point de vue de l'acheteur, une fois que les marchandises arrivent sur le marché, elles doivent trouver un acheteur, c'est-à-dire quelqu'un qui échange de l'argent pour ces marchandises, et ces marchandises sont ensuite consommées, dit Marx. Alors, il a notamment en tête la question de la consommation alimentaire, etc. Mais après, certaines de ces marchandises sont consommées sur un plus long terme. Une maison est consommée, évidemment, sur peut-être quelques dizaines d'années, etc. Et là, c'est une fois que cette marchandise est entièrement consommée que la personne va essayer de racheter un équivalent de cette marchandise. Et plus la marchandise se consomme rapidement, évidemment, plus la demande pour cette marchandise va réapparaître elle pourra de nouveau être consommée. Donc, même s'il n'aborde pas, je dirais, explicitement cette question-là, cet enjeu-là, le caractère nécessairement rapidement périssable de la marchandise une fois qu'elle a été échangée. Ce à quoi il accorde un peu plus d'attention dans le livre 2, c'est le fait que la périssabilité des marchandises est un souci constant pour les capitalistes parce qu'ils ne veulent pas que ces biens se corrompent et se dépérissent en leur possession, quand ils sont dans les entrepôts. Mais on pourrait dire l'envers de ça, c'est que ce qui est bien pour la valorisation du capital, c'est que ces marchandises soient consommées rapidement. Et puissent être reconsommées.
Donc toujours cette exigence de fluidité et de rapidité. Peut-être on peut passer maintenant à la dernière section, la section 3. Donc jusqu'à présent, on avait le point de vue d'un capital individuel, un capitaliste tout seul avec son argent, son processus productif, ses marchandises, avec toutes les exigences dont on a parlé, fluidité, rapidité. Dans cette troisième section, Marx va encore élargir la focale et nous dire, alors certes, bah là on a parlé d'un capitaliste individuel, mais évidemment, les marchandises que ce capitaliste individuel va acheter pour pouvoir produire, les marchandises qu'il va vendre, ça suppose ça l'existence d'autres capitalistes. Et on passe du point de vue du capital, de ce que Marx appelle le capital individuel, au capital social global. Est-ce que tu peux expliquer ce mouvement finalement d'élargissement de la focale pour comprendre en quoi la circulation met nécessairement aux prises, comme son nom, c'est contenu dans son concept, plusieurs capitalistes.
Oui. Oui, le grand thème après celui du cycle dans la section 1, c'est celui de la rotation dans la section 2. Le grand thème de la section 3, c'est cette question de la reproduction. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un capital est capable de se reproduire, c'est-à-dire continuer se relancer dans un nouveau cycle et par sa production poser les conditions de la reproduction de ce cycle. Et ce que montre Marx dans cette troisième section, mais il avait déjà commencé à parler de la reproduction à la fin du livre 1, c'est que, évidemment, la reproduction d'un capital repose sur la production, non seulement sa propre production, c'est-à-dire qu'ils produisent des marchandises qui soient vendues, mais aussi la production en parallèle de toute une série d'autres capitalistes dont les produits, dont les marchandises sont nécessaires à sa propre production, c'est-à-dire en tant que fournisseur, on pourrait dire, mais aussi sont nécessaires en tant qu'acheteur potentiel de ces biens. Puisque, évidemment, là, on s'est focalisé sur la question du consommateur comme étant un consommateur individuel. Alors que l'un des points sur lesquels insiste Marx, c'est qu'il veut dire, il dit, en gros, il y a deux grands types de producteurs dans une économie. Il y a les producteurs qui visent des consommateurs, c'est-à-dire des producteurs de biens de consommation qui seront consommés par des individus, et des producteurs de moyens de production, c'est-à-dire dont les acheteurs sont d'autres capitalistes.
Et l'économie, pour modéliser une économie, pour comprendre comment fonctionne l'économie capitaliste, il faut prendre en compte les deux. Et en tant que les capitalistes sont aussi en grande partie, ils s'achètent les uns aux autres leurs propres biens, et donc la reproduction de leur production repose sur la reproduction des autres. Et donc ce qu'il faut, c'est voir comment une économie, un ensemble, un monde capitaliste, une société capitaliste forme un tout où les différents cycles sont imbriqués et que s'il y a des crises de reproduction dans un secteur ou dans un type d'industrie, ça a énormément d'effets sur toute une série d'autres industries et comment tous ces cycles de capitaux sont imbriqués, sont imbriqués et entremêlés les uns dans les autres. Et c'est ça qu'il essaye ce à quoi il réfléchit, c'est cette imbrication des différents cycle de capitaux. C'est à ça qu'il réfléchit dans cette troisième section en disant qu'on a des effets, c'est comme si on avait affaire à une espèce de capital social. Et ce qui se joue à ce moment, c'est que le capital est toujours un capital, ça n'existe pas un capital simplement individuel, c'est toujours un capital qui est socialisé, qui produit pour d'autres et qui s'imbrique dans une certaine société. Donc c'est ça qui l'intéresse dans cette perspective de la reproduction. Et il montre que, évidemment, ce qui va permettre aux différents capitaux de s'imbriquer les uns dans les autres, c'est évidemment l'existence de la sphère de la circulation. Et c'est la sphère de la circulation qui permet... Alors, en tant que producteur, les lieux de production sont tous séparés les uns des autres, mais c'est par la sphère de la circulation, par l'échange, que ces différents lieux de production capitalistes séparés vont s'entremêler, s'entrecroiser et former le tout qu'est une société capitaliste.
Et là, il me semble que c'est assez intéressant du point de vue même de l'évolution de la pensée de Marx, puisque en réalité, ce qu'on retrouve, c'est quelque chose qui est présent depuis des dizaines d'années chez Marx, c'est l'idée que pour étudier une société, il faut d'abord et avant tout comprendre comment est-ce qu'elle produit et reproduit les conditions de sa propre existence. Et ce qu'il fait là, finalement, c'est donner une traduction scientifique de cette intuition qu'on trouvait déjà dans l'idéologie allemande, par exemple, et dont on a pu déjà parler dans En avant Marx. Et là, l'intérêt, c'est que on a la théorie de cette production et reproduction en monde capitaliste avec, comme tu l'as présenté, alors évidemment, on ne peut pas offrir un tableau général de tout ce que tout le monde produit et de tout ce que tout le monde achète pour voir comment est-ce que ça constitue un tout cohérent. Et le tour de force de Marx va être, effectivement, comme tu l'as dit, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut quand même désagréger, habituellement on dit en économie, une économie générale pour s'intéresser à des secteurs différents en montrant qu'il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre la production et la consommation de ces secteurs pour que ça fonctionne. En l'occurrence, Marx raisonne avec deux secteurs, alors parfois trois à la fin du livre 2, le secteur des biens de production, le secteur des biens de consommation et le secteur, parfois, de ce qu'il appelle les biens de luxe. C'est-à-dire, en gros, donc on a trois types de biens. Les biens consommés par les capitalistes en tant que capitalistes, c'est les biens de production. La machine que j'achète en tant que capitaliste, il faut qu'un autre capitaliste les produise. Les biens que je consomme en tant que salarié, ce que Marx appelle les biens de consommation, et les biens que je consomme en tant que capitaliste, mais en tant que capitaliste qui consomme. C'est-à-dire les biens de luxe, pour Marx, c'est les biens qui sont consommés individuellement par le capitaliste. Et là, on a encore une fois une intuition qui me semble intéressante, parce que ça permet de se dire, j'ai une économie sous les yeux, c'est quoi la part du temps de travail social qui est consacré aux biens de production? C'est quoi la part du temps de travail qui est consacré aux biens de consommation? C'est quoi la part du temps de travail qui est consacré aux biens de luxe? Et ça permet d'offrir un tableau finalement assez potentiellement intéressant d'une société. Une société qui produit beaucoup de biens de production. Par exemple, c'était le cas, j'en sais rien moi, de la société soviétique dont on reparlera peut-être puisque c'est les premiers à s'être servi de ces schémas pour penser des politiques d'industrialisation. C'est une société où les gens consomment peu et où il y a assez peu de biens de luxe en l'occurrence. Inversement, une société où on produit beaucoup de biens de luxe, peu de biens de production, c'est une société qui est plutôt une société de consommateurs rentiers, etc. etc. Ça offre des profils de société. Est-ce que, du coup, tu penses que ce schéma-là, finalement, il a eu une postérité scientifique? Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus sur... qu'est-ce que ça a ouvert comme perspective, finalement, cette idée de voir l'économie comme un tout cohérent, de la distinguer en secteurs et de s'intéresser sur quels sont les secteurs importants et comment est-ce qu'ils s'imbriquent?
Oui, c'est ce qu'on appelle les célèbres schémas de reproduction de Marx, et comment il essaye de schématiser la reproduction d'une société, ou produire des schémas, ou produire une esquisse d'un tableau de ce à quoi ressemblerait une reproduction, la reproduction globale d'une société. Alors, ça vient en partie, s'inspire de Kenney, mais qui retransforme de façon importante à partir de ses propres perspectives. Et là, ça fait date aussi dans la pensée économique. C'est vraiment l'un des premiers grands efforts de modélisation générale d'une économie. Et l'une des postérités, après ça a été retransformé, c'est cette postérité du côté de cette modélisation et cet effort de modélisation de ce qu'est une société, société capitaliste ou non capitaliste, et comment ça fonctionne. Alors, pour ce qui est de ces schémas de reproduction, alors, ces schémas, cette section 3, c'est ce que Marx a écrit en dernier, donc c'est vraiment le dernier état de sa pensée sur le capital, c'est ses tout derniers textes de la fin des années, début des années 80, donc ces derniers manuscrits du livre 2 sont consacrés à cette élaboration de cette économie, ces schémas de reproduction. Alors, peut-être qu'il faudrait ajouter, Marx distingue deux types de reproduction, ce qu'il appelle une reproduction simple, c'est-à-dire une reproduction, on pourrait dire, sans croissance. C'est-à-dire le fait que une économie continue à fonctionner, produit ce qui est nécessaire pour assurer sa propre répétition, mais une répétition qui serait à l'identique. Donc c'est un schéma qui n'est pas propre à une société capitaliste, puisqu'une société capitaliste est nécessairement une société de croissance, et donc non pas ce que Marx appelle cette reproduction simple, mais ce qu'il appelle une reproduction élargie. Et donc il se demande dans chacun de ces schémas quelles sont les conditions, qui doit produire quoi, comment, et quels sont les échanges entre les différents types de secteurs pour qu'il y ait, on pourrait dire, une croissance ou une reproduction à l'identique équilibrée. On se demande si c'est possible. Donc ça c'est pour ce qui est de ces schémas de reproduction. L'autre aspect de ta question, c'était celle de la postérité. Et moi, je dirais, tu pourras ajouter ensuite des choses, ensuite, puisque tu connais bien ces questions. On pourrait dire qu'il y a une double postérité de ces schémas de reproduction, selon ce qu'on fait. La première, c'est-à-dire, d'un côté, on a utilisé ces schémas pour penser le capitalisme et ses crises, et d'autre part, on a utilisé ces schémas pour penser une société non capitaliste. Alors, je dis quelques mots sur chacune de ces perspectives. Donc, l'une des grands héritages de ces schémas de reproduction et du livre 2 du Capital, ça a été différents efforts pour penser la société capitaliste et pour essayer de montrer soit que Marx montrait qu'une société capitaliste qui était en croissance était possible si l'on mettait en œuvre un certain nombre d'interventions, on intervenait d'une certaine manière pour que la croissance se fasse de façon équilibrée harmonieuse, on pourrait dire. Donc il faut intervenir, le capitalisme par le biais de l'État doit intervenir d'une certaine manière pour s'assurer, pour empêcher que tous les risques, pour minimiser tous les risques de crise et s'assurer de cette cohérence globale. Soit ça a été vu comme, donc on pourrait dire c'est la voie social-démocrate à l'intérieur du marxisme, c'est marxisme social-démocrate.
Parce que si je peux me permettre juste une précision, c'est que contrairement aux économistes, disons, mainstream, chez qui on peut retrouver cette idée de voir l'économie comme un tout harmonieux, Marx et les marxistes à sa suite insistent sur le caractère hautement improbable de l'harmonie en question, d'où la nécessité du recours à l'État.
Voilà. Donc d'une part, il y a des risques de dysfonctionnement, mais il y a les possibilités de les corriger et d'avoir une économie relativement harmonieuse. Ou bien, on a utilisé aussi ces schémas pour montrer, pour y déceler la preuve de l'impossibilité d'un développement harmonieux du capitalisme, et donc que le capitalisme serait nécessairement voué à son effondrement. Ou bien à s'engager dans des processus d'autodestruction ou de colonisation. C'est par exemple la lecture qu'en propose Rosa Luxembourg, pour qui analyse les schémas de reproduction en montrant que ce que montre Marx, c'est que une reproduction énergique n'est pas possible dans une économie capitaliste fermée et que le capitalisme doit sans cesse se projeter dans son extérieur, c'est-à-dire vers le non-capitalisme, en intégrant des éléments non capitalistes et dans un comportement prédateur. Et c'est là l'origine de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est une tentative pour résoudre les contradictions du capital en se projetant sur l'extériorité. Avec l'idée, c'est qu'une fois qu'on a intégré cette extériorité dans le capital, il faut sans cesse en trouver une autre.
Et donc, faire la guerre.
Ou faire la guerre, voilà. Donc, ça, c'est une des voies. Et les débats autour de la réception de Luxembourg ont porté là-dessus. Est-ce qu'il y a un effondrement inéluctable? Est-ce que l'impérialisme est une solution? Dans quelle mesure? Est-ce qu'on a cette économie capitaliste déséquilibre, en déséquilibre permanent et en besoin de croissance permanent est viable d'une certaine manière? Et on retrouve même chez Harvey la manière dont il analyse l'impérialisme américain contemporain. C'est tout, s'inscrit dans cette lignée-là, c'est-à-dire la projection militaire américaine s'inscrit dans, et l'ouverture des pays comme l'Irak, etc., au capital, s'inscrit dans une perspective globalement luxembourgiste pour résoudre les contradictions du capitalisme américain. Donc ça, c'est une première lecture centrée sur des schémas de reproduction, centrée sur le capitalisme, la critique du capitalisme et les perspectives, le futur possible ou impossible du capital.
Et peut-être dire un mot d'une tradition importante qui se réclame de ça, je ne sais pas si tu allais en parler, c'est celle du keynésianisme et du post-keynésianisme, où pour le coup, il y a chez certains auteurs, post-keynésien parce qu'ils écrivent après Keynes, mais dont certains sont des lecteurs de Marx, certaines également, on retrouve cette idée de considérer les travailleurs aussi comme des consommateurs et de rappeler entre guillemets aux capitalistes que des consommateurs, il faut qu'ils soient solvables et pour qu'ils soient solvables, il faut les payer et payer les travailleurs, ça s'appelle leur verser des salaires relativement corrects, etc. Et donc on retrouve cette idée d'une espèce de double visage du consommateur dans le monde capitaliste qui est à la fois un travailleur exploité par le patron et en même temps le consommateur à qui le même patron doit vendre les marchandises. Et avec de contradictions possibles d'un capitalisme débridé qui, où le patronat, alors c'est le paradoxe habituel qui a été brassé par les post-keynésiens, individuellement le capitaliste a intérêt à peu payer ses salariés, mais globalement les capitalistes ont intérêt, dans une économie normale entre guillemets, à ce que les salariés soient suffisamment payés pour pouvoir acheter leurs marchandises, en tout cas dans des économies, disons, fermées qu'on modélise habituellement.
Donc, c'est pour ça que les marxistes keynésiens, de tendance keynésienne, aiment bien le livre 2 pour cette question et ont cette lecture-là du livre 2 en montrant comment il faut intervenir d'une certaine manière pour favoriser la consommation, plutôt que, vont favoriser plutôt le livre 2, plutôt que le livre 1, qui insiste sur la question de l'exploitation et la lutte des classes irréductibles et l'opposition irréductible entre patrons et ouvriers. Mmh. Donc ça, c'est cette première lecture avec évidemment des positions politiques très différentes entre des positions social-démocrates, réformistes, des positions plus proches du keynésianisme ou des positions catastrophistes critiques de l'impérialisme. Donc ça implique des prises de position et des lectures très différentes du capital. Mais en tout cas, c'est une appropriation du livre 2 centrée sur la critique du capitalisme. Et il y a toute une autre lecture qui a été proposée à partir des années 20 dans le monde soviétique, puisque la question s'est posée en Union soviétique à partir des années 20. C'est une fois qu'on sort du capitalisme, comment est-ce qu'on organise les échanges entre les différents secteurs de production? Comment est-ce qu'on s'assure que cette société tienne d'une certaine manière? Et comment assurer la médiation entre ces différents secteurs de production une fois qu'on a supprimé le marché, et si, éventuellement si on supprime l'argent? C'est-à-dire, si, dans la mesure où l'argent et la sphère de la circulation dans le capitalisme assurent cette médiation, qu'est-ce qui va assurer cette médiation dans une société non capitaliste? Et donc, c'est notamment la planification, c'est le développement de la planification qui a mis en œuvre ça, et la pensée de la planification, qui est une certaine manière d'organiser rationnellement les différents secteurs de l'économie. Et empêcher, évidemment, en prenant en compte tous les risques de blocage, de crise, etc., pour que ce soit un développement harmonieux. Et beaucoup d'économistes soviétiques ont puisé dans le livre 2 et les schémas de reproduction des éléments théoriques pour élaborer leur propre modèle pour la société. Et donc, en considérant que ce que proposait Marx n'était pas propre au capitalisme, mais propre à toute société, d'une certaine manière, et utilisable potentiellement dans une société non capitaliste socialisée. Donc, je te laisse peut-être poursuivre là-dessus.
Simplement, en deux mots, c'est vrai, produire et consommer, c'est des choses qui ne sont pas réductibles à la société capitaliste. La société capitaliste a une certaine manière de produire et de consommer, donner, c'est évident. Mais l'idée qu'une société produit des biens de production et des biens de consommation, effectivement, on peut penser que c'est quelque chose de trans-société, c'est quelque chose qui se pose à n'importe quelle société. Et effectivement, on a vu chez les soviétiques, c'est cette volonté de poursuivre finalement l'entreprise de Marx, mais en termes concrets, c'est-à-dire en faisant un tableau général de l'économie soviétique et en désagrégeant un peu plus secteur par secteur. Alors avec des tableaux gigantesques, d'autant que c'était un temps qui n'était pas celui de l'informatique, donc tout était sur papier, on avait des énormes tableaux, et une complexification de ces schémas, puisque on avait non pas le secteur des biens de production, mais par exemple le secteur de la métallurgie, le secteur de tel secteur agricole, etc. Et il fallait effectivement que le secteur agricole produise de quoi subvenir aux autres secteurs, de manière à avoir une économie cohérente, sachant que très rapidement, on aboutit à des choses très complexes, d'autant que il faut corréler chaque production à un lieu géographique pour être sûr que ce ne soit pas complètement absurde de produire du blé là dont on a besoin à l'autre bout de la Russie, etc. etc. Et donc, effectivement, ça fait partie de cette postérité du livre 2 qui incite, encore une fois, à jeter un œil sur la société en tant que lieu où on produit et on consomme selon des proportions diverses et s'interroger sur qui produit quoi et qui consomme quoi, ce qui permet d'offrir un tableau relativement intéressant d'une société donnée.
Et puis prendre en compte cette question, comme tu dis, géographique, c'est-à-dire quand on... Ça implique nécessairement une organisation de l'espace, penser les flux et donc organiser quel type de lien entre les lieux de production, les lieux de consommation et quelle distance on veut avoir entre les différents entre ces lieux de consommation et de production.
Merci Alexandre pour ta présence. Je pense qu'on a désormais une bonne idée du contenu de ce livre 2 du Capital. Il ne me reste plus qu'à vous encourager, vous inciter à vous procurer l'ouvrage, à le lire, à en prendre connaissance. Alors pas forcément de l'intégralité de ce qu'il contient, mais de vous y reporter pour des analyses ponctuelles qui permettent, comme on a essayé de le montrer avec Alexandre, de porter un regard, disons, informé et cohérent sur les réalités du monde capitaliste aussi d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos séances consacrées au Capital, avec une prochaine séance sur le livre 3, puis sur le livre 4, qui nous permettront de clore ce cycle consacré à la critique de l'économie politique par Marx et à la manière dont elle s'est incarnée dans cette série d'ouvrages, Le Capital. Merci. Spectre.